sur la planète. Du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Radio Lomax est de retour pour une nouvelle année et aujourd'hui on se retrouve avec les interviews de Brian's Magic Tears et Steeple Remove.
Radio Lomax.
Et ils sont avec nous, deux représentants de ce groupe désormais parisien, mais un peu rouennais de cœur quand même, Lauriane et Benjamin, bonsoir à tous les deux.
Salut.
Bonsoir.
Un groupe qui plonge ses racines dans notre région, donc, puisque avant de partir à la conquête de la mégalopole parisienne, une partie des membres de Brian's Magic Tears, en l'occurrence Benjamin et Lauriane, ça tombe bien, a composé des groupes qui ont d'abord sévi en Normandie, comme We Are Crystal Palace, on le disait à l'instant, au milieu des années 2000. Et d'ailleurs, il reste des traces d'un concert avec les Steeple Remove qui date de novembre 2009. Quel souvenir de cette période vous avez ?
Assez flou.
C'est-à-dire que c'était assez agité aussi.
Ouais.
C'est très agité, mais c'est des bons souvenirs. Ça fait bizarre quand tu dis que ça fait déjà 11 ans que c'est ouvert le 106. Je m'en rendais pas compte du tout. Mais non, des bons souvenirs carrément.
La période lycée à l'époque, c'est la période où je croise des gens comme vous et puis les membres ou certains membres du collectif label Rouennais Sosa aujourd'hui. Sosa, je le rappelle, c'est notamment les groupes Cerveau. C'est aussi Greffel, par exemple. Dans le collectif label, il y a également Elephant, mais aussi The Baked Beans. Ou encore Mannequins. Ou alors, We Hate You Please Die. Autrement dit, la fine fleur du rock rouennais en ce moment. Vous partagez quoi avec cette clique à ce moment-là, justement, la période lycéenne ou début de fac ? Vous vous souvenez ?
À l'époque, on
surtout
était.
Surtout avec Clément, je crois.
Ouais, à l'époque, on était surtout très amis avec Clément.
Moi, j'avais un groupe avec Clément qui s'appelait les Neat Boys et Maxime Roquet. Qui jouait dans Crystal Palace aussi.
Et donc là, il y a, vous partagez quoi à ce moment-là avec tous ces gens-là ? Vous aviez déjà, je sais pas, une cette envie de faire de la musique
On partage des fins de clope, des fins de soirée, d'autres amis, des goûts musicaux. C'était pas aussi construit que tous les groupes que tu viens de passer maintenant, mais on partageait déjà pas mal de choses.
Et il y avait cette sensation qu'il pouvait naître quelque chose comme ce qui a été construit, ce que vous avez pu construire vous musicalement, ce que eux ont construit de leur côté ou pas ?
Je ne réfléchissais pas trop à ça en fait.
Non, c'est sûr. J'ai
juste envie de faire de la musique. Après, il n'y avait pas vraiment de.
J'imagine
de
qu'on
plan
l'a
sur la comète quoi.
J'imagine qu'on l'a pas ressenti parce que nous on a ressenti le besoin quand même de partir vers Paris et tout, mais c'est vraiment chouette de revenir et de voir qu'il y a eu vraiment énormément de trucs qui sont passés. Genre, tous ces groupes que tu viens de faire écouter, c'est quand même, ça a quand même rien à voir avec la période dont tu parles avant où on n'était pas beaucoup. Enfin, il y avait tous les groupes emblématiques déjà qui étaient là, comme Steeple Remove ou Tupelo Soul, ou même en remontant plus loin, les Dogs, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de dynamique de jeunesse, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est complètement. Que c'est bien en train de.
Il y a une scène, tu veux dire ?
Ouais, il y a une scène. Il y a vraiment une scène, là, c'est cool.
Mais finalement, vous étiez peut-être la première partie de l'iceberg à émerger, finalement, de cette
scène.
Non,
je ne pense pas non plus, non.
Non, non. Ouais, j'ai l'impression. Vous êtes en tout cas comme une branche parisienne aujourd'hui de cet arbre-là.
On est la succursale parisienne.
Ah, c'est ça. Et puis, j'ai lu dans une interview sur Vice, justement, on en parlait, que Christian Rosset, des Gloires Locales. Après le premier groupe rouennais signé chez Born Bad, les Olivenstein. Parce que vous êtes signé chez Born Bad, et ça aussi c'est une vraie bonne nouvelle. Ou encore, on le disait, les Tupelo Soul. Ça, c'est la première période de Tupelo Soul. Et puis, il a aussi été, Christian Rosset, le dernier bassiste des Dogs. Et il jouait encore dernièrement avec Batan Lotto. Voilà, des groupes emblématiques aussi rouennais. Christian Rosset, il vous a apporté pas mal de choses, de ce que j'ai lu en tout cas dans cette interview, c'est ce qu'on ressent. Comment s'est faite la rencontre? Comment concrètement vous avez partagé ces choses-là? Quel genre de discussion vous avez eu? Il vous a apporté quoi finalement ce gars-là?
Oui, il m'a apporté pas mal de choses. Il m'a fait connaître les Screamers. Je crois qu'on regardait en boucle sur sa télé à 2h du mat. On a regardé aussi Massacre à la tronçonneuse, bourré, c'était très bien. Voilà, après, je sais pas, on partageait.
En fait, c'était vraiment. Il nous a apporté quand même énormément de connaissances musicales. Mais d'ailleurs, j'en parlais dans l'interview, mais c'est plutôt à Maxime et Lauriane. Moi, je le connaissais un peu moins, mais c'est. Il y a des personnes comme ça, des fois, des aînés, qui te font écouter des choses. Que t'aurais pas forcément été écouté, surtout à une époque où Internet n'était pas aussi un vecteur d'information aussi important, quoi. Du coup, c'était important à cette époque-là, ce genre de personne.
Mais comment elle s'est faite, la connexion? Parce que Christian Rosset, on l'a compris, c'est la génération d'avant, quand même.
Bah, c'est pendant les concerts, en fait. Je crois qu'on l'a rencontré pendant des concerts. Et après, bah, je pense qu'on allait boire des coups chez lui. Et après, voilà, quoi, ça s'est fait comme ça.
Le gars a validé aussi ce que vous étiez, en tout cas, à ce moment-là, quoi.
Ouais, peut-être, ouais, un peu. Ouais.
Vous en gardez quel genre de traces dans votre façon d'aborder la musique, de la faire, de la penser, peut-être Est-ce que vous pensez que ça a imprégné votre musique, celle que vous faites aujourd'hui?
Bah, la façon de faire, elle est toujours. Enfin, je parle pour moi, mais la façon de faire, elle est toujours un peu similaire. C'est qu'on fait exactement ce qu'on veut comme musique.
Après, c'est du punk, quoi. Après,
c'est toujours resté un peu punk dans la façon de faire, même si ça s'entend moins maintenant. C'est toujours un.
J'ai toujours une pédale qui buzz, quoi.
Ouais, toujours des trucs un peu pourris dans le van, quoi.
Et vous avez un souvenir du concert avec les Steeple Remove, parce qu'il y a une histoire forcément avec Arnaud des Steeple Remove qui a produit votre album. Vous vous souvenez de ce concert qui est en 2009
au Vicomté, non? C'est
alors,
ça?
Oui, je crois que c'est ça, oui.
Alors moi non.
Moi je me souviens pas super bien. J'avais énormément d'alcool.
Vous vous souvenez plus de grand chose en fait.
Moi je me souviens un peu du concert de Steeple où il y avait beaucoup de monde et je m'étais vraiment beaucoup. Enfin je m'étais pris une claque quoi. Mais après raconter le détail je sais plus trop quoi.
Et après
on a tué le topic principal de l'émission.
Je veux dire la liaison, le lien avec non, c'est bien. Des fois les souvenirs sont vaporeux. Après We Are Crystal Palace, vous formez un autre groupe à Rouen, The Divines Orchestra. On écoute un extrait d'un live Terrasse du Jeudi, mais le son est pas très bon, je crois. Le son est très mauvais. C'était un live donc aux Terrasses du Jeudi avec ce Divine Orchestra 2010 ou 2011 il me semble, et puis c'est là où on perd votre trace rouennaise. Qu'est-ce qui se passe après ça? Vous partez à Paris, pourquoi? Pour faire de la musique?
Non, moi je partais à Paris parce que j'en avais marre de Rouen et que j'étais amoureuse d'un Parisien, voilà.
Moi j'étais pas à Paris à cette époque-là, j'étais à Cracovie en fait, parce que j'ai suivi aussi quelqu'un, et après quand on est revenu on est allé à Paris. On a suivi aussi Lauriane du coup, et à ce moment-là on a commencé à traîner un peu dans ce qu'on appelait à l'époque la scène garage parisienne, qui nous a ouvert certaines portes et qui nous a fait rencontrer plein de gens superbes, genre avec qui on joue maintenant d'ailleurs, et voilà. Aujourd'hui, on est là.
C'est pareil, ça démarre de rencontres
pendant les concerts
à chaque fois, ouais. Le vecteur ça reste la musique live.
Et puis la rencontre avec des gens qui vous ressemblent, dans lesquels vous vous reconnaissez.
Ouais, on fait les mêmes blagues ou ce genre de choses, quoi.
Et puis du coup, on vous ouvre des portes. Et là, comment ça se passe concrètement, l'entrée sur la scène garage parisienne?
Je sais pas, je crois qu'on avait, dans le groupe, on avait apporté quelque chose d'un peu plus pop, ce qui se faisait peut-être un peu moins à ce moment-là, puisque tout le monde était un peu des excités du bocal, et genre, étaient tous un peu.
Il y avait Catholic Express en fait, qui était plus punk et tout. Vénère, quoi.
Et du coup, je pense que peut-être ce truc-là, ça a pu pas plaire, mais en tout cas faire la différence. Et vu que les Parisiens sont friands de toutes les choses qui sont pas ordinaires, j'imagine qu'on s'est introduit dans ce créneau-là.
Et effectivement, on a entendu parler de Dame Blanche, puisque Brian Magic Tears, c'est aussi des bouts de Dame Blanche. Du groupe La Secte du Futur. Tu ne l'as pas. C'est pas grave, on le chantonnera. Vous pouvez nous le chanter, La Secte du Futur, non? Et qu'est-ce qui vous pousse à abandonner donc tout ça, cette scène garage-là, et à vous lancer dans un répertoire coloré plus années 90 alors?
Après, moi, j'ai toujours écouté des groupes 90, genre My Bloody Valentine, ou même un peu avant, Jason Mary Chain. C'était mes groupes préférés avec le Velvet quand j'étais au lycée, quoi.
Et pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt, du coup?
Je sais pas, parce que je préférais les musiques un peu plus binaires avant, un peu plus 80. Je sais pas, j'ai vieilli, du coup, je m'y suis remise, enfin, je sais pas.
Puis elle a disparu un peu, cette scène aussi, en fait. Là, on est un peu comme des restes. Et c'est marrant, d'ailleurs, de voir ce que chaque groupe est devenu, genre Feeling of Love de cette scène-là, genre ça a fait Marietta, un projet carrément plus fourni, carrément plus pop, carrément plus réfléchi, genre t'as d'autres groupes qui ont tout simplement disparu de la circulation, mais on n'a pas quitté cette scène-là, elle s'est juste un peu volatilisée.
Elle s'est évaporée.
Ouais.
Et vous, vous avez eu envie de revivre ça, ou c'est venu naturellement de se lancer dans ce... Cette
ça se fait naturellement.
Ça se fait naturellement. Il y a pas vraiment de réflexion quand
on
même.
On n'a pas fait une réunion.
Alors je vous conseille d'aller lire une interview que vous avez donnée à Noisé le mois dernier. On va s'appuyer sur cette interview pour poursuivre. Une interview plutôt drôle, mais dans laquelle on apprend plein de choses aussi. Que par exemple, vous fabriquez vos propres chaussures.
Ça, c'est une blague de Paul, ça.
C'est une blague.
Il y a eu prise de tête pour la pochette avec le boss JB de Born Bad Records. Que Benjamin est aussi cuisinier. Mais que l'idée, c'était surtout de garder un taf qui ne soit pas purement alimentaire. Des boulots alimentaires qui sont parfois plus que ça et qui peuvent t'éloigner de la musique, que le premier album on le doit à Benjamin seul dans sa chambre, et que l'autre est un peu plus collectif, même si c'est quand même Benjamin qui tient la barre. Paul, dans cette interview, explique que ce deuxième disque reflète le fonctionnement affectif que vous avez entre vous. Vous nous en dites plus sur ce fonctionnement affectif un peu?
Je sais pas, c'est... Bon, faisons dans le cliché, on va dire qu'on est un peu une sorte de famille, ou même plutôt une sorte de couple, mais à plusieurs. Du coup, il y a des superbes choses qui se passent, et il y a aussi des fois il y a des choses un peu plus vénères qui se passent.
Il y a des coups de gueule, quoi.
Il y a des coups de gueule, il y a des coups de
Trafalgar.
Il y a des coups de pied au cul, il y a des trucs comme ça, quoi.
Vous dites aussi, Benjamin, j'ai pas envie que mes amis deviennent des collègues de boulot. La musique, c'est pas un métier. Vous l'avez toujours pensé? Vous vous l'êtes concrètement dit, ça, pour le coup, ou pas?
Alors, moi, c'est ce que je pense, mais à titre personnel, je pense que nous tous, on est un peu comme ça. Après, je dénigre pas du tout ceux qui en font un métier et ceux qui ont effectivement des collègues de travail quand ils montent sur scène, parce que c'est aussi une façon d'appréhender la musique. Moi, je fais pas comme ça, par contre. J'aime bien.
Ça m'est jamais arrivé, mais
j'aime
après,
bien
on peut être collègue
avoir une grosse
et amis.
Liberté, quoi.
Ouais, mais effectivement, c'est peut-être ce qui vous caractérise aussi, et ce qui caractérise peut-être aussi une forme d'authenticité aussi dans ce que vous pouvez produire. On va revenir à la musique. C'est vrai aussi, c'est ce qu'on ressent en vous écoutant. Lauriane dit, moi, les groupes que j'aime, c'est vraiment le chaînon manquant entre la naïveté et la dépression. Et Benjamin, vous dites, c'est une émotion centrale dans ma vie, la mélancolie, mais c'est un moteur aussi. Et c'est la bande-son, justement, des années 90. Ça, on pense forcément à Nirvana, et puis tous les autres, forcément. Et c'est ça qui a coloré, justement, peut-être votre adolescence, et que vous allez chercher à nouveau dans cette musique que vous faites aujourd'hui?
Clairement. C'est clairement ça, et je pense que c'est même pas réfléchi de faire cette musique là c'est celle qui me touche le plus, et
ça va de soi, en fait.
C'est comme une évidence. Comme des gens qui seraient nés dans les années 60 et qui fatalement referaient de la musique 60s en arrivant sur leurs 30 ans, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui caractérise ce son des années 90, justement un son particulier, un traitement particulier, comme on retrouve cette ambiance-là de soleil qui se couche avec toute la beauté que ça peut avoir et toute la tristesse qu'il peut y avoir aussi en même temps?
Beaucoup d'accords mineurs avec de la disto, voilà.
Je pense que c'est une façon aussi de pas avoir peur de faire des chansons tristes mais avec un son très très énervé. Je pense ouais. que ce parallèle-là, il est important parce que c'est, enfin pour nous c'est important parce que ça transmet vraiment, je pense, ce qu'on ressent un peu tous, genre de parfois être un peu triste mais d'avoir envie de le dire de façon très forte.
La production de ce deuxième album, 4AM, c'est Arnaud de Steeple Remove qui s'en est chargé, on le disait tout à l'heure. C'est une sorte de boucle un peu qui se ferme, non?
J'espère pas, sinon ce serait terminé.
Non, mais il y a peut-être une autre boucle à se produire après.
J'espère qu'on n'en est pas à quelque chose de fermé déjà. Mais
on n'a pas 80 ans, quoi.
Mais c'était une suite de chemin assez cool parce que moi, Arnaud, genre, j'adore la musique qu'il fait avec Steeple Remove et même sans Steeple Remove aussi. Genre, je trouve que c'est génial et genre, c'était cool de pouvoir se diriger vers lui et de lui demander de produire cet album. C'était vraiment bien parce qu'il est super enrichissant comme type.
Du coup, vous allez finir par revenir sur Rouen, non?
Non, je pense pas.
Non, c'est pas prévu pour l'instant.
Très bien. Merci, Lauriane et Benjamin. On vous retrouve donc dans une demi-heure sur la scène du club du 106. Et on est très heureux de vous voir revenir fouler les planches rouennaises.
Mais nous, on est très heureux d'être ici.
Oui.
À tout à l'heure sur scène. We'll be right back.
Radio Lomax.
World, un putain de nom pour un groupe sans frontières, sans limites, avec tout dedans, les bras grands ouverts pour la vallée, même si c'est vrai, on ne mange pas avec les bras. Un nom qui laisse entrevoir comme une forme de grandiloquence, 13 années 80, quand tout était encore possible dans le vieux monde de l'ultralibéralisme et que la drogue provoquait des ravages dans les rangs des artistes. The World est rouennais et il sera avec nous le jeudi 24 janvier. The World en concert jeudi prochain au 106 avec Embrasse-moi et Grand Parc.
Radio Lomax.
Ils seront d'ailleurs en interview sur la radio du 106, en direct ici forcément au 106, lors de ce concert, lors de ces trois concerts. On accueille Steeple Remove dans la solitude des grands rayons lumineux. Tu voyages au milieu des étoiles, quelque part dans la galaxie.
Ah ouais, quand même.
Ouais, des planètes lointaines, poussiéreuses ou numériques attendent que nous foulions leur sol. Ce sera sûrement avec une bande-son de Steeple Remove, une bande-son synonyme d'exploration, exploration sensorielle, exploration intellectuelle, exploration mystique. Et évidemment exploration sonore sur un chemin sinusoïdal irrégulier depuis 20 ans. Les Normands reviennent sachant se faire attendre, mais avec régularité pour vous proposer proposer son orfèvrerie musicale. Bonsoir Arnaud, bonsoir Walter.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être là, très heureux de vous avoir en face de moi.
On est content d'être là.
Dans la petite bio sur votre page de réseau social, vous écrivez les Stipple Remove, finalement c'est Philippe Cadic qui rencontre Stereolab, qui rencontre Peel, suivent Karl Marx, Kahn, Arthur Craven, Dr. Gonzo, Joy Division, Isidore Ducasse, Main, les mathématiques modernes, Brian Eno, Dick Dell, Jean-Jacques Cousteau, The Red Crayola, Jean-Pierre Mocky, The Swell Maps, Jean-Patrick Manchette, Velvet Underground.
Oh putain, Serge, on a envoyé du name dropping.
Et ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Et parmi toutes ces influences, justement, plus ou moins influentes, j'ai l'impression, il y en a une qui a une importance particulière là-dedans ou pas ?
Walter, je te propose de répondre à cette première question.
Qui a écrit ça d'abord pour commencer ?
Allez, c'est un ami à nous.
Ah oui.
Qui avait écrit ça. Ouais.
Et finalement, c'est assez bien vu, non ? Ça...
Oui, oui. Bah, moi, personnellement, en tout cas, si je devais retenir un nom, ce serait Philippe Cadic, parce que mon auteur, un de mes auteurs fétiches, et qui est une grande inspiration. Pour le côté libertaire et extrême, psychédélique, recherche, niveau de réalité superposé et inspiration. Et puis c'est quelqu'un de vraiment incroyable.
Effectivement, la musique de Stipple Remove cadrerait bien avec les œuvres de Cadic.
Cadic, c'est le premier film qui a été tiré... d'un de ses romans, c'est Blade Runner.
Ouais.
Donc c'est Vangelis, donc c'est les synthétiseurs.
Et voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Vous fêtez vos 20 ans. Quand vous regardez le parcours, vous vous dites quoi ? Les 20 ans de Stipple Remove, c'est
ans,
énorme.
Bah, on ne regarde pas comme ça, parce que quand tous les musiciens pensent aux prochains morceaux qu'ils vont faire, aux prochains concerts. Donc en fait, les 20 ans, nous, on n'y pense pas. On pense juste à ce qu'on va faire ce soir, faire le meilleur concert possible et à défendre...
Aux 20 prochaines, quoi, on pense.
Ouais. Non, donc on pense à la suite, en fait. On pense pas, on n'est pas en train de se dire « Ah putain, incroyable tout ce qu'on a fait quand même ». Non, on est content quand il se passe des bonnes choses, mais on est toujours dans le présent, parce que monter sur scène, c'est dans la réalité, dans l'instant, en fait, quoi. Il faut être sur le moment, quoi, toujours.
La scène, par rapport à la production, parce que forcément, la musique de Stipple Remove, c'est aussi beaucoup de travail de production. Il y a la scène, c'est aussi un moment essentiel pour vous. Oui, j'imagine, forcément. Mais
c'est différent, complémentaire, de toute façon. Quoi. Ouais. Donc ça commence par répéter, studio, concert, un ordre différent, quoi, mais c'est complémentaire à chaque fois.
Puis on a un vrai groupe, on est un groupe, c'est-à-dire qu'on joue basse, batterie, guitare en studio. Après, il y a beaucoup de travail de production derrière, mais en fait, c'est du live, quoi, la manière dont on enregistre, même si c'est très produit derrière. Donc il y a toujours l'idée de présenter après les morceaux sur scène, même si c'est très travaillé en album. Pour pouvoir les jouer, on n'a pas envie de faire des morceaux pour pas pouvoir les présenter sur scène. Alors on les trie, mais l'idée c'est que de pouvoir tout jouer à 4 au maximum.
Un peu plus près le micro de la bouche,
si tu peux.
On va refaire un peu l'histoire parce que c'est la première fois qu'on vous a en interview, je crois. Ça a commencé sur quelle base, Stipple Remove, à la fin des années 90 ?
Bah, c'était l'amitié, quoi. Et puis la passion commune de groupe qu'on aimait.
Et puis faire à cet âge-là, faire quoi d'autre, quoi ? L'ennui aussi, quoi. Une source d'inspiration.
Et vous écoutiez quelle musique ? Vous fréquentiez quelle faune à Rouen ?
Au tout début, on écoutait quelle musique ? Ben, on écoutait les Pixies et Sonic Youth. Comme, beaucoup de... Après, notre grande passion, ça a été évidemment le krautrock.
Kahn, ouais, Phil Hanoïviec, Melody Valentine, de toute façon, quoi.
Ouais.
Donc tout ça mélangé.
Kraftwerk.
Mais ça fait 20 ans que ça
David
dure,
Bowie. Ouais, c'est ce qu'on écoutait, ce qu'on écoute toujours d'ailleurs. C'est toujours nos influences. Et Brian Eno.
Et
les Residents.
Et
tant d'autres.
Et la faune que vous croisiez à Rouen, c'était quoi ?
Bah, vu l'époque que c'était, j'ai oublié quelques visages.
C'est marrant, c'est un petit peu le même propos qu'avec les Brian Magic Tears tout à l'heure. Enfin. Partie de ce qui était à Rouen, en tout cas.
Il y a eu le squat qui était très important à l'époque pour nous. Ça a été ces gens-là qu'on a rencontrés. On jouait XIX et des groupes.
Doc
Fesserman, ouais. On a été en Hollande. Grâce à eux, on a été sensibilisés au végétarisme et puis à la culture indépendante grâce à tous ces gens-là, quoi. Donc, c'était ça. Et puis après, il y a eu le Café Curieux. Qu'on a monté à l'époque aussi, on en faisait partie. On était dans cette ambiance-là. On essayait de créer des choses. Il y avait rien. Donc le squat à Rouen, c'était important parce que il y avait plein de groupes étrangers qui venaient et le Café Curieux, pareil. On a fait venir plein de gens. Enfin, pas que.
Oui, il y avait, tout un collectif en tout cas.
Voilà, ouais. C'est ça. Donc on faisait partie. On a fait partie des deux, en fait. Parce qu'on a joué au squat, on a joué chez Emile, donc. Et c'était, ouais, c'était. De toute façon, il fallait faire des choses, sinon il n'y avait rien. Donc on était tenus, et c'est la même chose d'ailleurs qu'on fait maintenant, si on produit notre musique, parce que sinon personne ne le fera pour nous. Quoi.
Et comment les choses justement, elles ont évolué pour prendre la forme que le groupe a aujourd'hui, cette direction musicale?
Bah évoluer, on n'a pas tant évolué que ça en fait. Hein.
Non,
on est resté...
Quand tu regardes bien, même quand tu parlais des 20 ans en arrière, il y a l'évolution, mais c'est pas non plus... On disait qu'on écoutait encore ces musiques-là qui nous ont influencés il y a 20 ans, donc... Ouais. C'est une suite logique, mais finalement...
On a plus approfondi notre sujet découvert et eu des... On a été de plus en plus... C'est normal, parce que, par exemple, quand on écoute bien Alan Vega, par exemple, ça, c'est toute une vie à comprendre et à essayer d'être inspiré par quelqu'un comme lui. C'est pas... Ça pourrait être des noms qui seraient en dehors de cette musique-là, par exemple, nous qui ne serons pas en rapport avec la musique qu'on fait, mais si on écoute par exemple un album de John Coltrane, je pense qu'on n'en a pas fait le tour, même au bout de 10 ans, quoi, ce qui paraît logique. Et dans la musique qu'on fait, par exemple Suicide ou Alan Vega, ça reste toujours aussi influent et inspirant, quoi. Et donc on n'en a toujours pas fait le tour.
Et comment vous fonctionnez aujourd'hui ?
Moi je compose beaucoup de musique et à la fois on laisse beaucoup de place à l'improvisation en studio et dans nos morceaux. Donc en fait c'est un grand mélange, même si je gère beaucoup de choses au niveau de la prod. On laisse beaucoup de place aux accidents, on a improvisé des trucs en studio et on les a gardés quasiment tels quels pour l'album. Parce que c'était des moments, parce qu'on a un vrai truc de groupe depuis le temps qu'on joue ensemble, et on laisse beaucoup de place aussi à ces moments d'improvisation, à ces moments de spontanéité auxquels je crois, qui sont des choses qui font que des fois ça, la musique vieillit pas trop, parce qu'elle a été enregistrée sur le moment, même si c'est beaucoup retravaillé derrière.
Et sur scène aussi, il y a cette forme d'improvisation.
Toujours. Mmh. Ouais. Chaque morceau qu'on va jouer ce soir, il y aura des bouts d'improvisé. Je crois, hein. Ouais. Parce que...
Oh oui, de toute façon, ça part d'improvisation, donc on les connaît après, mais ça peut partir.
Ça peut durer plus ou moins longtemps. À un moment, je fais un petit ciné à Walter pour dire que c'est trop long, peut-être. Et des fois, je me plante.
On disait tout à l'heure, Arnaud, c'est vrai que la production, c'est plutôt toi,
oui.
Avec une méthode bien particulière que certains viennent chercher d'ailleurs aujourd'hui.
J'ai cette chance.
Ouais. En travaillant sur des bandes analogiques, d'après
fois,
ce que j'ai bien compris,
des
pas
fois,
forcément.
Bah, parce que des fois, le matériel veut pas bien marcher, alors du coup, je suis obligé de passer en numérique et c'est compliqué de travailler en analogique, mais Benjamin effectivement on a cette chance là, enfin
de Brian Magic Tear, c'est ça,
ouais, tout ça qui proposait de produire son album parce qu'en fait il a dû se dire bon bah ils font ce truc là depuis longtemps, ils savent le faire et puis mais tout en apportant quelque chose à leur musique, hein. L'idée c'est pas d'arriver en disant je vais faire mon son, l'idée c'est de se mettre au service d'un groupe de toute façon qu'on produit, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et de faire son mieux mais servir le projet des autres, c'est juste pour arriver et dire c'est comme ça qu'on n'enregistrerait pas autrement, c'est pas intéressant, c'est un échange. Eux, ils ont des super chansons, des super mélodies, des vraies idées de prod aussi. Donc moi, j'ai essayé de mettre ça en valeur, mais grâce à mon expérience d'enregistrement et de production avec Steeple, quoi.
Et en même temps, ce qu'on entend, c'est que aussi, t'es un petit peu un perfectionniste dans ces histoires de production et de son. Comment est-ce qu'on travaille avec un producteur, en l'occurrence Demian Castellanos, avec lesquels vous avez travaillé là sur cet album, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Vonalaxis, comment est-ce que ça se passe ?
Là, c'était des échanges, je lui ai envoyé les pistes, il m'a fait plein de propositions, et dans ce qu'il m'a proposé, j'ai retenu ce que j'aimais. Et voilà, c'était vraiment un... Je l'ai mis tout à fait à l'aise, je lui ai pas dit fais-moi un mix et je veux que ça sonne comme ci, comme ça, en le faisant chier. J'ai fait, en fait, comme je fais avec le groupe, j'ai essayé de laisser que ce soit spontané et qu'il aille jusqu'au bout de ses idées. Et moi, j'ai fait le tri dans ses idées parce que je crois pas dans le fait de contraindre quelqu'un en lui disant faut que tu fasses comme ça et remonte de ça et refais ça. Non, il y avait un côté, on garde la spontanéité. Moi, par contre, je fais le tri dans ce que tu vas me proposer. Et c'est un mec super. Là, on travaille sur un remix pour lui en ce moment et on va faire d'autres échanges, on jouera avec lui. Et c'est lui, grâce à lui, qu'on a rencontré notre label anglais First Club, qui nous a, quand j'ai envoyé l'album, je lui ai dit on travaille avec Demian et du coup c'est un artiste de First Club et du coup ça les a forcément, ils ont eu une autre oreille, sachant que on bossait avec lui.
Et il y a une recherche particulière quand tu travailles sur le son, toi, Arnaud ?
Bah ouais, c'est essayer d'atteindre les cimes soniques des gens que j'admire et qui m'inspirent. Alors forcément, il y a toujours... il faut réussir à s'en approcher et tout en trouvant sa personnalité. C'est ça, il faut s'en inspirer en étant soi-même. C'est ça, c'est un jeu qui est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est très long.
Premier album, c'était en 98. Suivront 4 albums et 2 EP. Un nouveau disque donc est sorti fin novembre. Vonalaxy, 6e album, validé par exemple par Black Rebel Motorcycle Club.
C'est
puisque
vrai.
Le groupe a partagé sur sa page officielle le morceau Waters.
C'est d'ailleurs, des gens qui ont du goût.
D'ailleurs, très tôt, il y a eu comme une sorte d'engouement qui venait même des États-Unis, d'Angleterre, à la fin des années 90. Internet venait à peine d'arriver. Vous venez de sortir The Importance of Being Steeple Remo.
Ouais, grâce
premier
à
album.
Jean-Pierre Turmel, Sentimental.
Sorti en 90 sur le label Sordid Sentimental.
Ouais.
Comment il a été accueilli ce premier album ?
Mais c'était juste. Il se passait strictement rien en fait. Quoi. C'était un désert absolu. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun retour. Une musique comme ça en 98, c'était vraiment dur. Quoi. On avait juste la chance d'avoir quelqu'un qui était un autre maître à penser, Jean-Pierre Turmel à l'époque, par rapport à la manière dont il envisageait la musique. Et c'était vraiment un artiste, on l'est toujours. Et très, très inspirant, et nous, ça nous suffisait. Voilà, il nous a dit, faites l'album, dans un an et demi, je le sors, et on a travaillé comme des damnés là-dessus. Mais c'était. Il n'y avait pas de. C'était un désert, en fait, quoi. Il y a eu 2-3 fanzines, et puis après, on a joué quand même, en tant que groupe de rock. Mais c'est une musique qui était très expérimentale aussi, donc on ne pouvait pas s'attendre non plus à avoir des retours faramineux, quoi. Mais c'était. Ça a été. On aurait pu arrêter après cet album-là, quoi.
98-2006, le groupe a splitté ou...
Non, pas du tout.
Du tout non.
On a cherché, on a travaillé, on s'est retransformé, on a essayé de produire notre musique différemment, on a cherché un label, on a composé. C'est un travail acharné, la musique. Hein. Il y a des gens qui vont peut-être faire ça comme ça rapidement, mais nous, on est plus besogneux quand même d'une certaine manière.
Alors donc, on le disait, vous avez fréquenté différents labels, à chaque fois des labels de caractère. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, Sordid Sentimental, le label rouennais qui a travaillé avec Joy Division, qui a accompagné la vague punk-pop rouennaise, on va dire.
Ouais.
Surfside Records, Bonsai Records, cette fois-ci c'est un label londonien, donc Fuzz Club Records, qui sort le disque. Que peuvent
c'est
avoir
C'est vrai qu'on change toujours de label.
Bah ouais, c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en commun, ces labels-là ?
Nous.
C'est ça.
Ouais. Apparemment. C'est des gens qui prennent des risques, parce que pour sortir un album comme le nôtre, il faut quand même avoir une notion de prendre un risque un petit peu. Puis c'est des gens qui sont dans une. C'est des passionnés, souvent. Bester Thomas de Gonzai, c'est un passionné. C'est un esthète aussi. C'est un peu des labels d'esthète. Alors, bon, c'est. Parce que c'est une musique, hein, nous on ne s'en rend pas forcément compte, qui n'est pas toujours évidente à diffuser. Mais c'est des gens qui ont le coup de cœur sur notre musique et qui ne pensent pas en termes de vente, qui vont se dire oh, j'ai envie de le faire parce qu'on trouve que l'album. Ils trouvent qu'en fait ils ont un catalogue et ils se disent j'ai envie que cette musique-là fasse partie de notre catalogue, j'imagine, quelque chose dans ce genre-là.
Alors. Comme souvent avec vous, on plane un peu sur des nappes brumeuses synthétiques, mais l'univers peut se tendre aussi. On pense à Blood Vein sur cet album, sur ce nouveau disque, sombre et vitaminé, écrit Libé. Mais surtout, on a l'impression que vous vous êtes affranchi de vos influences, de la technique, que vous êtes plus serein. Est-ce que je me trompe ou pas ? J'ai l'impression que...
On a tout produit par nous-mêmes, donc on l'a vraiment fait exactement comme on voulait. À Quasar Studio à Rouen, j'ai tout produit parce que j'ai pris de la bouteille en tant que producteur. J'ai tout fait de A à Z au niveau de la production, hein, pas de la musique, mais et après on a cherché un label, donc on a fait ça, on n'était pas sûr de pouvoir le sortir quand on l'a fait.
Puis au bout de 20 ans, c'est bien aussi maîtriser un petit peu, parce que ça serait dommage quoi.
Ouais, c'est vrai.
On aurait pu se planter aussi.
Bah oui. Blood Vein, on entend l'orage, on a une ambiance avec des humains qui parlent à la fin du morceau. Waters, on entend la mer. Pink Ferris, la mer, le train à vapeur. Il y avait cette envie d'intégrer le monde à votre musique, un hein, lien peut-être avec le réel ou pas ?
Bah non, c'est notre premier album, The Importance of Being Steeple Remove. L'idée, c'est qu'en fait, tout peut être de la musique. Ça, c'est Pink Floyd, c'est Syd Barrett. À n'importe quel moment, un bruit peut être une mélodie, une musique. En fait, il n'y a pas de limitation. En fait, dans la musique, il y a la musique concrète, tous ces trucs-là, mais en fait, tout peut être musical. C'est juste le regard qu'on porte sur la chose qui fait qu'on va le transformer en musique. Un bruit de train qui passe, par exemple, voilà, ça peut devenir un élément qu'on met dans une musique parce qu'on se dit, tiens, c'est évocateur, ça devient poétique et ça devient de la musique. Donc en fait, un solo de guitare pourrait être transformé par des bruits de, d'oiseaux ou de quoi, je ne sais quoi en fait quoi. Mais ça a toujours été fait, hein. Les Beatles l'ont fait, c'est pas une, genre, c'est pas une nouveauté, c'est juste que ça, ça fait partie des possibilités soniques qu'il y a en fait dans la musique. Donc pourquoi se limiter à juste une guitare si on peut rajouter un bruit d'oiseau qui parle à, si c'est le bon moment quoi.
Et puis alors, on va, c'est vrai qu'on passe d'un sujet à l'autre, mais dans 6 minutes, il va falloir, même pas dans 4 minutes, le concert va commencer dans club. Donc on va se dépêcher un peu. Vous êtes trouvé aussi avec un Julien Brunet, par exemple, l'artiste rouennais qui vous a produit un clip.
Ouais, bah c'est une super rencontre. C'est un mec vraiment talentueux, adorable, et on a une bonne collaboration ensemble. Et voilà, ouais, c'est vraiment, je suis content d'avoir mis, qu'on ait mis ces images-là sur ce morceau, ça fait sens. Parce que c'est un boulot d'artiste et en fait, c'est une collaboration plus qu'un clip, en fait.
C'est bon. C'est du bon boulot, c'est très bien ce qu'il a fait.
Ouais, c'est bien. Donc du coup, non, c'est vraiment c'est une collaboration. C'est tout neuf, hein, on vient de le rencontrer, en fait.
Et donc, son univers, j'imagine qu'il vous parle et qui résonne avec le vôtre, quoi.
Sur le clip, ça colle super bien.
Ouais,
quoi.
C'est vrai. Donc,
C'est une belle rencontre, quoi.
Ouais, c'est, ça correspond. Lui, il fait ça dans son coin. Nous, on fait notre musique aussi dans notre coin, sans aucun, comment dire, sans se mettre de concept en tête, en se disant on veut vendre, on veut être dans tel genre ou tel genre. Lui, fait de cette manière-là. Donc, du coup, ça correspond, en fait, à notre manière d'appréhender la musique, quoi.
Et alors, on parlait tout à l'heure du fait que la musique, c'était un travail acharné, c'était un chemin au long cours. Vous en êtes où sur votre chemin? Vous savez ce qui arrive après?
Il y a des concerts après, parce que l'album vient de sortir.
Voilà. Ouais.
Et puis, c'est déjà pas mal, quoi.
On défend le disque, déjà. Et puis, forcément, il y a toujours des envies, des idées, des choses qui arrivent, quoi. À la fin d'un disque, on a ouvert des chemins, en général. Ah bah tiens, cette nouvelle suite d'harmonie, on l'avait jamais trouvée. Ce nouveau rythme, ça peut nous inspirer pour un autre morceau. En fait, quand on finalise un album, il y a toujours des nouveaux chemins qui sont ouverts, quoi. C'est pour ça que ça appelle toujours à un autre disque, en fait. C'est sans fin.
Ça s'arrêtera jamais.
Non.
Merci. J'espère qu'on vous recroisera
merci
bientôt
ici. Déjà, on est là.
Et bon concert
merci,
à vous.
Manu.
Arnaud, Walter, longue vie à Steeple Rimo. Les prochains concerts au 106, on va en parler dans quelques instants.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Il était venu nous visiter pour un concert événement au 106 qui voyait le retour de LTNO, les Tétis Noirs, une référence dans l'histoire de la musique indus, new wave, gothique, dada, de la période rock alternatif en France. Emmanuel Hubo, alias le comte d'Eldorado, alias Emmanuel V, qui à l'âge de 13 ans, dans le grenier de son plasticien de père, Joël Hubo, en Normandie, adepte du dadaïsme, des happenings surréalistes, produisait ses premiers morceaux. Et c'est justement avec son père qu'il a sorti il y a peu l'album Rock and Roll Station, le premier album de Peste Moderne. Ils seront tous les deux au FRAC Haute-Normandie, programmé par le 106 le 31 janvier prochain.
Peste Moderne,
je suis synchro. Je suis synchro. Je suis synchro dans le caisson. Coco, comme une mouillette. Comme une mouillette. Je suis synchro. Synchro, comme une mouillette.
Peste Moderne en concert au FRAC Normandie-Rouen dans le cadre de l'exposition d'Élodie Le Sourd le jeudi 31 janvier au FRAC à 18h30. Et puis donc le concert va démarrer dans quelques instants. Je vous conseille de rejoindre le club. Le programme de la soirée sur la web radio du 106, pour ceux qui sont en train de nous écouter sur internet, c'est du son et des petits bouts d'interview ici au 106, donc à Rouen ce soir. Dans quelques minutes, ça va démarrer dans quelques instants, Brian's Magic Tears, et puis ensuite Steeple Remove sur la scène du club du 106. Bonne soirée à tous.
Radio Lomax, c'est fini pour cette semaine. Les concerts au 106 sont donc repris avec jeudi soir The World, Embrasse-moi et Grand Parc. Holly Cook et Sous les Tropiques, ce sera vendredi soir, et samedi soir, Clara Luciani. À la semaine prochaine.